Bonjour et bienvenue dans la quatrième dimension. Le livre tibétain de la vie et de la mort par Sogyal Rinpoche. Cette émission clôture la première partie qui s'intitule « La vie ». Suite et fin du chapitre 10 « L'essence la plus secrète » L'action. À mesure que demeurer dans le flux de Rigpa devient réalité pour le pratiquant, sa vie et ses actions quotidiennes commencent à s'en imprégner, donnant naissance à une stabilité et à une confiance profonde. L'action, dit Dajom Rinpoche, consiste à être véritablement attentif à vos pensées, bonnes ou mauvaises, à examiner la nature véritable de toute pensée qui s'élève, sans remonter au passé, ni solliciter le futur, sans vous permettre de vous attacher à des expériences de joie, ni d'être abattu par des situations tristes. Par là même, vous essayez d'atteindre l'état de grand équilibre et d'y demeurer. Là, bien et mal, paix et détresse sont dénués d'identité véritable. La réalisation de la vue transforme, subtilement mais radicalement, votre vision de toute chose. Il m'apparaît de plus en plus évident que les pensées et les concepts sont, tout simplement, ce qui nous empêche de demeurer constamment dans l'absolu. Maintenant, je comprends clairement pourquoi les maîtres disent si souvent « Efforcez-vous de ne pas engendrer trop d'espoir ni de peur. » Cela ne fait qu'encourager le bavardage mental. Lorsque la vue est présente, les pensées sont perçues pour ce qu'elles sont véritablement. Fugaces, transparentes et seulement relatives. Vous voyez directement à travers toute chose, comme si vos yeux étaient des rayons X. Vous ne vous attachez plus aux pensées ni aux émotions. Vous ne les rejetez pas non plus. Vous les accueillez toutes au sein de la vaste étendue de Rigpa. Ce que vous preniez tellement au sérieux, jusqu'alors, ambition, projet, espoir, doute et passion, tout cela n'a plus sur vous d'emprise profonde et angoissante, car la vue vous a aidé à en percevoir la futilité et la vanité, et à susciter en vous un esprit de renoncement authentique. Demeurer dans la clarté et la confiance de Rigpa permet à toutes vos pensées et vos émotions de se libérer naturellement et sans effort, au sein de sa vaste étendue, comme si vous écriviez sur l'eau ou peigniez dans le ciel. Si vous vous appliquez à parfaire cette pratique, le karma n'aura plus aucune occasion de s'accumuler. Dans cet état d'abandon dénué d'ambition et d'inquiétude, est décrit par Dajom Rinpoche comme un état d'aise nu, sans inhibition. La loi karmique de cause à effet ne pourra plus vous enchaîner en aucune manière. Ne vous attendez pas, surtout, à ce que ce soit ou puisse être facile. Il est extrêmement difficile de demeurer, ne serait-ce qu'un instant, sans distraction, dans la nature de l'esprit. À plus forte raison, d'auto-libérer une seule pensée ou émotion dès qu'elle s'élève. Nous présumons souvent que le simple fait de comprendre ou de croire comprendre quelque chose intellectuellement revient à l'avoir réalisé. C'est là une grave erreur. Seules des années d'écoute, de contemplation, de réflexion, de méditation et de pratique assidue peuvent nous amener à la maturité nécessaire. De plus, on ne saurait trop répéter que la pratique Dzogchen nécessite toujours la direction et les instructions d'un maître qualifié. Sinon, il existe un grave danger que l'on appelle dans la tradition perdre l'action dans la vue. Un enseignement aussi élevé et aussi puissant que le Dzogchen comporte un risque extrême. Si vous vous imaginez libérer vos pensées et vos émotions alors qu'en réalité vous en êtes très loin, si vous croyez agir avec la spontanéité d'un vrai yogi Dzogchen, vous ne faites qu'accumuler de vastes quantités de karma négatif. Padmasambhava disait, et ce devrait être aussi notre attitude, bien que ma vue soit aussi vaste que le ciel, mes actions et mon respect pour la loi de cause à effet sont aussi fins que des grains de farine. Les maîtres de la tradition Dzogchen ont toujours souligné que, faute d'une connaissance complète et approfondie de l'essence et de la méthode d'auto-libération, acquise au prix d'une longue pratique, la méditation ne fait que vous enfoncer davantage dans l'illusion. Cela peut sembler brutal, mais c'est pourtant la vérité. En effet, seule la constante auto-libération des pensées peut mettre réellement fin au règne de l'illusion et vous éviter d'être plongé à nouveau dans la souffrance et la névrose. Sans la méthode de l'auto-libération, vous n'aurez pas la force de faire face aux malheurs et aux circonstances néfastes qui se présenteront et, même si vous méditez, vous vous apercevrez que des émotions telles que la colère et le désir sont toujours aussi fréquentes. Le danger d'autres formes de méditation ne comportant pas cette méthode est qu'elles ne deviennent semblables à une méditation des dieux. Le pratiquant se perd aisément dans un somptueux état d'auto-absorption, ou bien dans une quelconque transe ou absence passive. Aucun de ces états n'attaque ni ne dissout l'illusion à sa racine. Le grand maître Dzogchen, Vimalamitra, a décrit avec une grande précision les degrés croissants de naturel de cette libération. Lorsque vous commencez à maîtriser la pratique, la libération se produit dès que les pensées apparaissent, comme lorsqu'on reconnaît un vieil ami dans une foule. À mesure que vous parachevez et approfondissez la pratique, la libération survient au moment où la pensée ou l'émotion s'élève, comme un serpent qui se déroule en défaisant ses propres nœuds. Enfin, au stade final de maîtrise de la pratique, la libération est comme un voleur pénétrant dans une maison vide. ce qui se manifeste ne peut plus affecter, en bien ou en mal, le véritable yogi du Dzogchen. Même chez le plus grand yogi, le chagrin et la joie s'élèvent tout comme auparavant. Ce qui distingue un yogi d'une personne ordinaire est la façon dont il envisage ses émotions et y réagit. Un être ordinaire les accepte ou les rejette instinctivement, suscitant l'attachement ou la répulsion, ce qui entraîne une accumulation de karma négatif. Par contre, un yogi perçoit tout ce qui se manifeste dans son état naturel et originel, sans permettre à l'attachement d'infiltrer sa perception. Dilgo Khyentse Rinpoche décrit un yogi flânant dans un jardin. Il est pleinement sensible à la magnificence des fleurs, leurs couleurs, leurs formes et leurs parfums le réjouissent. Mais il n'y a nulle trace dans son esprit d'une quelconque saisie ou d'un quelconque commentaire mental. Comme le dit Dzogchen Rinpoche, quelles que soient les perceptions qui s'élèvent, soyez comme un petit enfant qui entre dans un temple magnifiquement décoré. Il regarde, mais sa perception est dénuée de toute saisie. Ainsi, laissez toute chose intacte dans sa fraîcheur, son naturel, son éclat et sa nature immaculée. Quand vous la laissez dans son état originel, sa forme ne change pas, sa couleur ne s'affadit pas et son éclat ne se ternit pas. Ce qui apparaît n'est souillé d'aucun attachement. Ainsi, tout ce que vous percevrez s'élève comme la sagesse nue de Rigpa, l'union indivisible de la luminosité et de la vacuité. L'assurance, le contentement, la sérénité spacieuse, la force, l'humour profond et la certitude née de la réalisation directe de la vue de Rigpa constituent le plus grand trésor de la vie, le bonheur ultime que rien, une fois atteint, ne peut détruire, pas même la mort. Dilgo Khyentse Rinpoche disait: une fois que vous aurez réalisé la vue, bien que les perceptions trompeuses du samsara puissent encore s'élever dans votre esprit, vous serez semblable au ciel. Quand un arc-en-ciel apparaît, le ciel n'est pas particulièrement flatté. Et lorsque des nuages surviennent, il n'est pas particulièrement déçu. Vous éprouverez un profond sentiment de contentement. Vous exulterez en votre fort intérieur en voyant que le samsara et le nirvana ne sont qu'une façade. La vue inspirera constamment gaieté et humour, et un léger sourire intérieur pétillera toujours en vous. Dzogchen Rinpoche déclarait: la grande illusion, l'obscurité du cœur, étant purifiée, la lumière radieuse du soleil s'envoile, brille continuellement. Quiconque prend à cœur les instructions de ce livre sur le Dzogchen et son message sur la mort y puisera, je l'espère, l'inspiration pour chercher, trouver et suivre un maître qualifié et s'engager dans un entraînement complet. Deux pratiques constituent le cœur de l'entraînement Dzogchen: Treksho et Togal. toutes deux indispensables à une compréhension profonde de ce qui se passe pendant les bardos. Je ne peux en donner ici qu'une introduction extrêmement brève, car l'explication complète n'est transmise que de maître à disciple. Alors que ce dernier s'est engagé de tout son être à suivre les enseignements et qu'il a atteint un certain stade de développement spirituel. Ce que j'ai expliqué dans le présent chapitre, l'essence la plus secrète, est le cœur de la pratique de Treksho. Treksho signifie pourfendre l'illusion avec une rigueur implacable et directe. Essentiellement, c'est la force irrésistible de la vue de Rigpa qui tranche cette illusion. Tel un couteau coupant une motte de beurre ou un expert en karaté brisant une pile de briques. Tout l'édifice fantasmatique de l'illusion s'écroule, comme si la clé de voûte en avait été soufflée. L'illusion est tranchée nette. La pureté primordiale et la simplicité originelle de la nature de l'esprit sont mises à nu. Tant qu'il n'aura pas vérifié au préalable que les bases de votre pratique de Treksho sont parfaitement établies, le maître ne vous présentera pas la pratique avancée de Togal. Le pratiquant de Togal travaille directement avec la claire lumière qui réside de façon inhérente et spontanément présente au sein de tout phénomène. Il utilise des exercices spécifiques et exceptionnellement puissants afin de la révéler en lui-même. Togal se caractérise par sa qualité d'instantanéité, de réalisation immédiate. Plutôt que de parcourir toute une chaîne de montagnes afin de parvenir à un lointain sommet, l'approche de Togal consisterait à atteindre ce sommet d'un seul bond. Togal permet au pratiquant d'actualiser en lui-même tous les aspects de l'éveil en l'espace d'une seule vie. Togal est par conséquent considéré comme la méthode unique et extraordinaire du Dzogchen. Alors que Treksho représente sa sagesse, Togal en est le moyen habile. Togal requiert une discipline à toute épreuve et est généralement pratiqué dans le cadre d'une retraite. On n'insistera jamais assez sur le fait que la voie du Dzogchen doit impérativement être suivie sous la direction personnelle d'un maître qualifié. Comme le dit le Dalai Lama, vous devez garder présent à l'esprit que les pratiques Dzogchen telles que Treksho et Togal ne peuvent être accomplies que sous la conduite d'un maître expérimenté. Et grâce à l'inspiration et la bénédiction d'une personne vivante qui possède elle-même cette réalisation. Le corps d'arc-en-ciel. Grâce à ces pratiques avancées du Dzogchen, le pratiquant accomplit peut terminer sa vie d'une façon extraordinaire et triomphante. À sa mort, il laisse son corps se résorber dans l'essence lumineuse des éléments qui l'ont créé. Et, par conséquent, son corps physique se fond en lumière et finit par disparaître complètement. Ce processus est connu sous le nom de corps d'arc-en-ciel ou corps de lumière. Car la résorption s'accompagne souvent de manifestations lumineuses spontanées et d'arc-en-ciel. Les anciens tantras du Dzogchen et les écrits des grands maîtres en distinguent différentes catégories. Il fut une époque, en effet, où cet étonnant phénomène était sinon commun, du moins relativement fréquent. Habituellement, une personne qui se sait être sur le point d'atteindre le corps d'arc-en-ciel demandera qu'on la laisse seule, sans la déranger, dans une pièce ou une tente pendant 7 jours. Le 8e jour, seuls demeurent les cheveux et les ongles, éléments impurs du corps. Cela peut nous sembler bien difficile à croire, mais l'histoire de la lignée Dzogchen est émaillée d'exemples d'individus ayant atteint le corps d'arc-en-ciel. Ainsi que le soulignait souvent Dzogchen Rinpoche, ceci n'est pas uniquement le fait du passé. Parmi les nombreux exemples, j'aimerais vous décrire un cas récent avec lequel j'ai un lien personnel. En 1952, au Tibet oriental, se produisit un cas célèbre de corps d'arc-en-ciel dont de nombreuses personnes furent témoins. L'homme qui l'atteignit, Sonam Namgyal, était le père de mon tuteur et le frère de Lama Tseten, dont j'ai décrit la mort au début de ce livre. C'était une personne simple et humble, qui gagnait sa vie comme graveur de pierre itinérant, gravant des mantras et des textes sacrés. Au dire de certains, il aurait été chasseur dans sa jeunesse et aurait reçu l'enseignement d'un grand maître. Qu'il fût un pratiquant n'était connu de personne. C'était un authentique yogi secret. Quelque temps avant sa mort, il prit l'habitude d'aller dans la montagne. On pouvait voir sa silhouette se détacher sur le ciel, tandis qu'il demeurait assis, immobile, portant son regard droit dans l'espace. Au lieu des invocations et des chants traditionnels, il chantait ceux qu'il avait lui-même composés. Nul n'avait la moindre idée de ce qu'il faisait. Puis un jour, il tomba malade, ou en donna les apparences. Mais il semblait, étrangement, de plus en plus heureux. Lorsque sa maladie empira, sa famille appela auprès de lui, maître et médecin. Son fils lui recommanda de se remémorer tous les enseignements qu'il avait entendus. Il sourit et répondit : J'ai tout oublié et, de toute façon, il n'y a rien à se rappeler. Tout est illusion, mais j'ai confiance que tout est bien. Juste avant son départ, il était alors âgé de 79 ans. Il déclara : Tout ce que je vous demande après ma mort, c'est de ne pas déplacer mon corps pendant une semaine. Lorsqu'il mourut, sa famille enveloppa sa dépouille et invita lama et moine à venir pratiquer à son intention. Ils placèrent le corps dans une petite pièce de la maison et, ce faisant, ne purent s'empêcher de constater qu'ils n'avaient aucune difficulté à l'y faire entrer, bien qu'il eût été de grande taille, comme s'il avait rapetissé. En même temps, des manifestations extraordinaires de lumière d'arc-en-ciel furent observées tout autour de la maison. Quand, le 6e jour, ils regardèrent dans la pièce, ils virent que le corps s'amenuisait de plus en plus, le 8e jour après sa mort, au matin des funérailles, ceux qui étaient chargés de le transporter ne trouvèrent, en dégageant le linceul, que ses cheveux et ses ongles. Mon maître, Jamian Kiense, demanda que ceux-ci lui fussent apportés et attesta qu'il s'agissait bien là d'un cas de corps d'arc-en-ciel. Ainsi s'achève le chapitre 10, l'essence la plus secrète, et la première partie qui s'intitule La vie. C'était le livre tibétain de la vie et de la mort par Sogyal Rinpoche. Cette première partie constitue la moitié du livre tibétain de la vie et de la mort. La deuxième partie s'intitule Mourir. La troisième partie, Mort et Renaissance. La quatrième partie conclut avec le processus universel et les serviteurs de la paix. Je rappelle cette introduction, ce pourquoi ce livre a été écrit. J'aimerais dédier ce livre à Jamian Kiense Shoki Lodro, Dajom Rinpoche, Dilgo Kiense Rinpoche, Nyoshul Ken Rinpoche, Kiense Sangyum Kandro Tsering Chodron, et à tous mes maîtres bien-aimés qui ont été l'inspiration de ma vie. Puisse ce livre être un guide vers la libération. Puisse-t-il être lu par les vivants, être lu aux mourants et à l'intention des morts. Puisse-t-il aider tous ceux qui le liront et les stimuler dans leur cheminement vers l'éveil.